Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour me chouchouter aussi, vous l'entendez un peu aujourd'hui, petite laryngite, mais c'est pas grave, ça va aller. Il est à mes côtés justement pour nous aider, docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Je pense que l'émission va être très longue pour votre voix, mais ouais, elle va déjà mieux apparemment.
Je suis bien soignée, donc ça va, tout va bien, j'ai un bon docteur. Allez, au menu aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la maladie d'Alzheimer. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et avec notre invité, grand spécialiste du vieillissement, le professeur Philippe Amouyel, nous ferons d'abord un point sur l'état de la recherche. Parmi la centaine de traitements en cours d'évaluation, quelles sont les pistes les plus prometteuses? Et puis, il nous détaillera aussi les mesures de prévention qu'on peut tous mettre en œuvre au quotidien pour essayer de repousser Alzheimer, car oui, il y en a qui ont fait la preuve de leur efficacité. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous changerons un tout petit peu la formule aujourd'hui, puisque nous avons décidé de vous donner la parole sur la maladie d'Alzheimer. Vous avez des questions précises, pratiques? Le professeur Amouyel restera avec nous pour y répondre. Enfin, vers 15h50, comme chaque jour, là pour le coup, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de relations amoureuses un peu compliquées quand elles débutent dans le cadre professionnel.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va écouter la première, c'est la question d'Astrid.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, mon fils de 11 ans doit faire un rappel de vaccin cette année. Je voulais savoir si je pouvais reporter. Est-ce que c'est si grave si je reporte, sachant qu'il est en parfaite santé et que je n'ai pas très envie d'aller traîner dans une salle d'attente de médecin par les temps qui courent? Merci.
Jimmy, alors cette épidémie, elle a de nombreux effets collatéraux et des effets malheureux qu'on commence à mesurer. On sait qu'il y a eu notamment un retard de prise en charge pour les AVC, pour les infarctus durant le confinement. Et puis d'autres qui concernent des actes moins urgents comme cette question. Est-ce qu'il est prudent de retarder les vaccinations classiques, je dirais, du calendrier vaccinal des enfants?
Absolument pas. Et d'ailleurs, c'est une des conséquences de cette éventuelle deuxième vague, c'est que tous les autres soins finalement prennent du retard. Alors, ça peut concerner les personnes qui souffrent de cancer, les personnes âgées, les diabétiques, les hypertendus, mais aussi les enfants. Et on a vu pendant le confinement une baisse drastique de la vente des vaccins, puisqu'on avait dit aux parents de ne pas consulter, d'aller pas dans les cabinets médicaux initialement. Sauf que si on retarde la vaccination, on fera réapparaître de nouveaux virus qui peuvent être évidemment plus dangereux. Donc il n'est pas utile ni justifié, voire même dangereux, de décaler la vaccination. Et si vous avez pris un peu de retard, c'est pas très grave. Retournez voir votre pédiatre ou votre médecin traitant. On peut rattraper, on ne recommence pas à zéro. Donc allez consulter, c'est le moment de vous faire vacciner tant que l'épidémie est encore un peu contrôlable.
Et vous l'avez dit, hein, les pédiatres sont très inquiets. On en a eu certains qui ont témoigné dans cette émission parce que les vaccins obligatoires des enfants, il y a certains qui concernent vraiment des virus qui circulent encore en France. La rougeole, il y a encore quelques mois, on en parlait. Il y a des micro-épidémies dans certaines régions. Donc il faut faire très attention parce qu'elles vont ressortir, ces maladies.
Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Il y a la coqueluche qu'on avait imposée aux grands-parents, aux parents et aux enfants, qui a permis de faire baisser la mort subite du nourrisson. Donc en fait, c'est des virus qu'on a presque oubliés puisqu'ils n'existent plus du fait de la vaccination. Ils n'existent plus, pas parce qu'ils ne sont plus présents dans la nature, mais car on a une couverture vaccinale nécessaire pour éviter une circulation. Donc, si individuellement vous arrêtez de vacciner votre enfant, on peut se dire que ce n'est pas très grave, mais un, vous lui faites courir un risque inutile, et puis deux, si on se met tous à raisonner comme ça, eh bien on va faire apparaître des virus ou des bactéries qui n'existaient pas auparavant, qui seront peut-être même pires
si que
le coronavirus.
Si on reste en vacciné, qu'on les maintient
exactement
à bas bruit.
Donc allez voir votre médecin, faites-vous vacciner, c'est obligatoire, mais c'est une histoire peut-être de pédagogie, il faudra qu'on retravaille sur la question des vaccinations.
Petit mot sur le vaccin contre la grippe dont on parle beaucoup en ce moment. Certains le recommandent, il y a eu une tribune de députés ce week-end, vous en pensez quoi?
Je suis partagé, alors faudrait peut-être déjà, nous on montre l'exemple, les soignants, on n'est pas assez vaccinés
ça,
dans
vrai.
Un premier temps, je pense que nous les médecins et le
chaque
personnel...
Enquête le montre chaque année.
On n'est pas assez bon et peut-être qu'il faut qu'on le rende obligatoire, qu'on montre l'exemple, parce qu'on donne beaucoup de leçons aux Français et peut-être que nous-mêmes on devrait aussi tirer un peu des conclusions. Et puis en ce qui concerne les enfants, c'est vrai que ça peut être intéressant dans le sens où vous allez aider votre médecin à faire un diagnostic différentiel entre le coronavirus et la grippe, mais on peut se dire aussi qu'on fait ça pour les mauvaises raisons, puisqu'on n'a pas d'accès aux tests normalement. Si on avait test salivaire et vous êtes en cabinet, on fait le test, on pourrait peut-être éviter la vaccination. En tout cas, la
société française... Les fragiles, certains,
voilà,
ils y vont.
Là, hein. Voilà, les fragiles, les personnes âgées, des personnes immunodéprimées ou dans votre entourage, faites-les vacciner, c'est recommandé, ça nous évitera en tout cas un hiver peut-être compliqué.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Gaëtan. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, j'ai une petite question pour vous. Ma sœur ne souhaite pas allaiter son bébé à venir. Elle est très ferme là-dessus, elle ne le sent pas du tout. Donc, comment la convaincre que c'est ce qu'il y a de mieux pour les bébés, pour son bébé? Si vous avez des arguments médicaux, ça pourrait peut-être m'aider. Merci beaucoup.
Bon, un frère très investi dans la grossesse de sa sœur, c'est pourquoi pas, hein, admettons. Jimmy, peut-être, bon, il le dit lui-même dans sa question, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les bébés, c'est vrai, mais le lait infantile, c'est pas un poison non plus. Hein,
non,
on
c'est
est
pas
d'accord.
La fin du monde, effectivement. Encore
il y a plein de bébés aller au biberon avec de l'artificiel qui vont très bien.
Ils vont très bien.
D'accord.
Alors après, même s'il faut être honnête, le lait maternel est quand même mieux, de meilleure qualité. Ça permet de limiter des infections, notamment chez les enfants, les infections ORL, respiratoires, des gastro-entérites, et même le fait d'être hospitalisé, si jamais on attrape une de ces infections.
L'OMS le recommande.
L'OMS le recommande jusqu'à 6 mois, voire jusqu'à 2 ans en complément. Et puis, ça permet aussi de lutter contre l'obésité, 10 à 15% d'obésité en moins. Mais si vous avez fait le choix parce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas d'allaiter votre enfant, le lait artificiel ne pose aucun problème.
Alors justement, il vous demande des arguments pour convaincre sa sœur. Moi, je crois qu'on va lui dire de laisser sa sœur tranquille, non,
oui,
quand même, parce qu'on n'a pas à convaincre quelqu'un.
Franchement,
moi, j'aimerais pas que mon frère, j'aurais pas aimé que mon frère s'y mise dans ce genre de.
Exactement. C'est ce que ma femme, qui est sage-femme, dit souvent aux mamans, mieux vaut un biberon donné avec amour qu'un sein donné avec contrainte. Et donc, les femmes ne sont pas dans une injonction. Elles font ce qu'elles peuvent et ce qu'elles veulent. Et puis, ça permet aussi au papa de se réveiller la nuit, de donner un biberon à 3h du matin, au lieu de faire semblant de pas entendre l'enfant pleurer. Donc, ça permet à tous
de
participer.
Je peux rien faire de toute façon.
Exactement. Donc voilà, si vous voulez donner un biberon, faites-le. Il y a aucun problème. Discutez-en avec votre pédiatre. Ce qu'il faut qu'il soit supplémenté en DHA, c'est une protéine qui est présente dans le lait maternel, qui est moins présente dans le lait infantile, qui permet de protéger le cerveau. Et tous les laits ne sont pas enrichis en DHA. Donc regardez l'étiquette et demandez conseil à votre médecin.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Gaëtan qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Philippe Amouyel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et aussi le directeur général de la Fondation Alzheimer. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. L'occasion de faire d'abord un point avec vous sur la recherche. On peut dire qu'elle est très active dans le domaine ou pas, vous allez nous dire. Nous, patients, c'est vrai qu'on attend désespérément, ça fait des années qu'on fête. Qu'on parle de cette journée, qu'on parle d'Alzheimer régulièrement, mais on a l'impression que un traitement curatif, on nous dit toujours oui, c'est pour bientôt, mais il n'arrive jamais. C'est pourtant très actif.
Ben oui, c'est actif parce que c'est quand même la première préoccupation des chercheurs, c'est de trouver comment stopper la progression de cette maladie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 110 molécules qui sont en test dans le monde entier, en phase 3, c'est-à-dire qu'on regarde si elles sont efficaces ou non chez les individus et chez les patients. Et on sait qu'aujourd'hui, on devrait avoir des résultats d'ici un an ou deux sur des pistes que l'on connaissait déjà et de nouvelles pistes qui sont en train d'être mises en œuvre.
Jimmy ?
Justement, on sait que la maladie d'Alzheimer, en tout cas les lésions cérébrales, débutent bien avant l'apparition des symptômes. Est-ce qu'on a des molécules qui permettraient de stopper cette évolution de la maladie vers des troubles de la mémoire ou autre ?
Alors oui, les molécules qui sont actuellement en cours sont essentiellement des molécules qui cherchent à éliminer ces lésions dans le cerveau. Et pour éliminer ces lésions, ce qu'on utilise, c'est le corps humain et sa capacité à produire des anticorps qui vont extraire ces protéines. Alors il y a deux façons, soit on fait des vaccins, et on pourrait faire des vaccins. Mais
vaccins contre Alzheimer.
Des vaccins contre Alzheimer, oui, tout à fait. Mmh. Ou alors on utilise ce qui est utilisé énormément actuellement dans le cancer et dans d'autres maladies, ce qu'on appelle les biothérapies. On fabrique des anticorps à l'extérieur du corps et on les injecte au patient pour l'aider à éliminer ces protéines. La plupart des essais aujourd'hui sont des essais de type biothérapie qui éliminent soit une des deux protéines qu'on appelle la protéine amyloïde, qui s'accumule, qui est une espèce de glu qu'on retrouve entre les neurones, et une autre protéine qui, elle, est à l'intérieur des neurones, qu'on appelle la protéine tau, et dont on sait que de temps en temps, elle s'échappe du neurone. Donc on aimerait la bloquer juste au moment où elle s'échappe du neurone. Donc des essais sont en cours dans ces deux éléments. Alors, les premiers essais qui ont été faits sur la fameuse protéine amyloïde se sont révélés négatifs.
Contre la glu, pour l'instant, on n'a pas de traitement.
Alors, on n'a pas de traitement. Si on a un traitement, mais il n'est pas efficace actuellement sur les fonctions intellectuelles. Et on s'est rendu compte, finalement, que comme la maladie, lorsque les symptômes apparaissent, la maladie a déjà évolué depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que pendant cette résistance du cerveau, quand le cerveau ne résiste plus, les symptômes apparaissent. Et si je stoppe la maladie à ce stade-là, ben peut-être que, en effet, je stoppe la maladie, mais les neurones n'étant plus là pour répondre, ça n'a plus marché. Donc l'idée aujourd'hui, c'est essayer de traiter le plus tôt possible. Du coup, un champ de recherche sur des marqueurs très précoces.
Jimmy ?
Et en ce moment, du coup, on a combien de médicaments à peu près qui sont en test en ce moment ? Est-ce qu'il y en a tant que ça, d'ailleurs ? Est-ce qu'on a l'impression, dans la tête des gens, qu'il y aurait peut-être une ou deux molécules simplement qui seraient en phase de test ?
Non, il y en a bien plus. Il y en a à peu près 110 dans le monde actuellement, en phase 3. Alors, il y en a d'autres en phase 1, en phase préclinique, qui sont dans les laboratoires. Mais sur ces sujets que je viens d'évoquer, il y en a à peu près une centaine dans le monde qui tournent, donc on espère avec impatience des résultats, en sachant que...
100, c'est beaucoup, donc il y en a bien un qui va aboutir, on espère.
Oui, mais la particularité de ces 100, c'est 80 sont un peu de la même nature et 20 sont un peu de la même nature. Donc c'est ça, donc il y en a certainement qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais finalement, c'est comme si on avait deux, mais on a énormément d'essais pour savoir si c'est efficace ou pas à différents stades de la maladie.
Vous nous avez parlé des deuxièmes types de médicaments qui sont peut-être un peu plus récents dans leur développement que ceux qui sont contre l'amyloïde, cette glu entre les neurones, ceux qui agissent donc sur la protéine tau. Est-ce que vous nous expliquez un tout petit peu comment ça marche, comment ça fonctionnerait ?
Une des particularités de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle entraîne ce qu'on appelle une dégénérescence des neurones. Et cette dégénérescence, on a compris comment elle fonctionnait, elle s'explique parce qu'en fait, une protéine de structure qui tient le neurone bien droit et bien plat est un peu abîmée parce qu'elle a trop de groupements phosphores, on dit une hyperphosphorylation. Et à ce moment-là, le neurone se met à se tortiller.
Ça fait des neurones vrillés.
Exactement, ça fait des neurones vrillés. Et ces neurones vrillés ne deviennent plus fonctionnels. Alors, ça ne vient pas brusquement, ça devient très progressivement et ça suit une cartographie. Ça commence au niveau de l'hippocampe, cette petite zone du cerveau qui est centrale pour la mémoire. Et puis, ça s'étend lentement, lentement à tout le cerveau. Donc, ce qu'on voudrait, c'est au moment où cette protéine s'étend et s'autopropage dans le cerveau, la stopper grâce à ces biothérapies.
Jimmy ?
Et puis, une chose qui est perturbante dans cette maladie, on peut avoir des lésions cérébrales et pas forcément de symptômes. C'est-à-dire que peut-être on aurait des pistes nous-mêmes pour essayer d'agir et d'éviter d'avoir la maladie ?
Oui, tout à fait. On a montré, alors ce sont toujours des cas qui ne sont quand même pas fréquents, on a montré que finalement, certaines personnes chez qui on a pu examiner le cerveau après leur décès et chez qui on a pu mesurer leur fonction intellectuelle quasiment jusqu'à la fin de leur vie, comme ça une étude chez des nonnes aux États-Unis, on s'est rendu compte que certaines de ces nonnes continuaient à faire des cours de mathématiques à 96 ans et avaient le cerveau avec une accumulation de lésions de type Alzheimer, essentiellement la protéine amyloïde. Elles n'avaient pas de lésions de ces protéines tau, mais de la lésion amyloïde. Donc cette personne avait peut-être une autoprotection contre cette accumulation de protéines amyloïdes et on a trouvé certaines personnes qui... justement, certaines mutations ont une susceptibilité à résister. Donc ce sont des pistes qui sont très fondamentales, mais qui sont en effet en cours d'exploration.
Professeur Amouyel, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Philippe Amouyel. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies du vieillissement et directeur général de la Fondation Alzheimer, qui est, je le dis au passage, le premier financeur non gouvernemental de la recherche contre cette maladie. Ça c'est important de le dire quand même. Alors, professeur Amouyel, on va passer à tous les conseils qu'on peut mettre en œuvre, chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours pour garder un cerveau en forme et repousser donc l'apparition d'Alzheimer. Avant de rentrer dans le détail, à quel âge tous les conseils dont on va parler juste après, il faut les démarrer ?
Alors théoriquement, il faut les démarrer le plus tôt possible. Mais très concrètement, on les démarre en général quand on commence soi-même à avoir des petites pannes de mémoire. C'est là qu'on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire quelque chose ?
Peut-être c'est le moment. Non, mais c'est vers 40 ans en général.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est normal, ça. Tout le monde, à partir de 40-45 ans, commence à oublier des choses. Mmh. Et la première chose qu'on oublie, c'est les noms propres. Très difficile à retenir.
Effectivement, mais alors, du coup, moi, j'adore manger. Ça se voit d'ailleurs,
ouais,
j'adore manger.
Sait.
Mais qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon assiette pour préserver un peu mon capital neurone ou cerveau ?
Alors, là-dessus, il y a eu énormément d'études qui n'ont montré qu'une seule chose jusqu'à présent, qu'il y a un régime qui fait que les gens qui consomment ce régime développent une maladie d'Alzheimer extrêmement tardivement. C'est le régime méditerranéen, connu sous le nom de régime crétois. Là-dessus, on a des preuves.
C'est le seul qui est prouvé, ouais.
C'est le seul qui est prouvé de manière répétitive. Parce que ce n'est pas des preuves expérimentales, mais c'est à chaque fois, il y a une consistance, une homogénéité dans tous les travaux qui ont été faits là-dessus. Alors, le régime méditerranéen, c'est 10 grands principes. Et le premier, c'est de consommer des matières grasses essentiellement dites monoinsaturées. C'est
de l'huile d'olive.
Voilà,
ça c'est bien, on a
dans
tout
la
bon.
Cuisine à l'huile d'olive. Alors, il faut s'habituer, ça a un certain goût, il faut l'essayer.
C'est délicieux.
Et donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est consommer des fruits frais et des légumes frais, essentiellement locaux. C'est ça la force des Méditerranéens, c'est d'avoir justement cette richesse locale en termes de fruits et de légumes. À côté de ça, vous avez également les fruits secs, en particulier l'hiver, comme les lentilles, qui sont excellents pour ces équilibres de neurotransmetteurs et autres qu'ils vont apporter. Également, vous consommez généralement du poisson. Et du poisson au moins deux fois par
semaine. La mer, c'est un bon garde-manger pour le cerveau.
C'est excellent pour tout un tas de raisons. Ça apporte énormément de bienfaits. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous prenez les éléments avec des petits comprimés, c'est pas la même chose que quand vous mangez du poisson.
Ah oui.
Les gens en Méditerranée réduisent leur consommation de viande rouge. On ne dit pas qu'il faut l'arrêter, mais il faut la réduire. Mmh. Augmentent les consommations de viande blanche, genre viande de volaille, et consomment des laitages relativement maigres de type brebis ou chèvre. Donc, avec ces grands principes déjà, que
c'est
vous suivez
mal.
Peut-être. c'est pas mal. Faites-le un petit peu tous les jours.
C'est un cerveau bien nourri avec ça.
Exactement, bien nourri et bien équilibré.
Jimmy.
Les patients demandent souvent quelles vitamines ou compléments alimentaires ils pourraient prendre pour ne plus se sentir fatigués. Est-ce qu'on en aurait un ou deux à proposer aux patients justement pour préserver aussi le capital neurone ?
Alors, ces conseils de prise de compléments alimentaires ne sont valables que pour des gens qui ne peuvent pas s'assurer une alimentation équilibrée, y compris de type méditerranéen. Quand vous avez certaines carences, il y en a certaines qui abîment progressivement les neurones. La première, qui est la plus fréquente, qu'on trouve chez quasiment la moitié des Français, c'est le déficit en vitamine D. 10 à 20% de la population, il y a carrément une carence, des taux extrêmement bas.
Cette molécule qu'on synthétise notamment en s'exposant au soleil. Hein,
c'est justement pour ça, puisque la moitié de la France n'est pas toujours avec
surtout
des taux d'exposition importants. Merci. Et également, on est toujours habillé, parce qu'on estime à peu près qu'il faut être exposé 30 à 45 minutes. Le visage, le haut du torse et les bras, pour justement au soleil, pour pouvoir produire cette vitamine D. On n'est jamais dans ces conditions. Et la complémentation est facile, pas chère, et vous faites ça chez votre médecin traitant. Vous pouvez la prendre en une fois tous les mois. Et c'est excellent pour tout un tas de circonstances.
Donc c'est bon pour les os et pour le cerveau.
Et pour le cerveau.
On parle peut-être d'un toxique à présent, le tabac. Alors on le sait, le tabac c'est très mauvais pour plein d'autres choses que le vieillissement et Alzheimer. Mais si on s'intéresse au cerveau, je crois que la nicotine, principalement dans le tabac, a une action spéciale sur le cerveau et voire nocive justement.
Alors oui, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il est fragile. Alors il est protégé par la boîte crânienne, il faut faire attention au traumatisme. Il est protégé à l'intérieur par une barrière, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui empêche les produits toxiques qui sont notre sang de pénétrer dans le cerveau. Sauf qu'il y a certains produits toxiques qui arrivent à passer, et en particulier certains dérivés du tabac, dont la nicotine. La preuve, c'est que quand vous consommez de la nicotine, ça vous crée une accoutumance, donc il se passe quelque chose du côté de votre cerveau. Et à la longue, ça abîme cette barrière hémato-encéphalique. Il peut se faire que d'autres toxiques passent, facilité par cette atteinte liée à la nicotine.
Bonne raison d'arrêter de fumer.
Du côté des médicaments, est-ce qu'on peut éviter certaines choses ? Je crois que du côté des anxiolytiques et des somnifères, c'est pas terrible non plus.
Alors, pendant longtemps, on s'est demandé si anxiolytiques et somnifères ne favorisaient pas l'Alzheimer. Mais il faut bien réfléchir au fait que les gens qui ont Alzheimer, souvent, sont un peu anxieux avant de le développer. Alors, est-ce la cause ou la conséquence ? Alors, des études sur des très longues durées ont montré que dans certaines circonstances, en effet, il semblerait que ce soit une cause. C'est quand on consomme des anxiolytiques, j'ai entendu parler de nom, des benzodiazépines, de manière prolongée, pendant plus de 5 semaines, et des benzodiazépines à haute durée d'action, c'est-à-dire qui s'éliminent très lentement, qui vous laissent un peu patraque le matin. Donc, en revanche, ces médicaments sont des médicaments efficaces. Efficaces pour la dépression, efficaces pour l'anxiété.
Donc, on ne les redit absolument pas.
Il faut les prendre sur prescription. Et contrôler, surveiller, en particulier pas trop longtemps. Si vous avez des problèmes d'anxiété ou de dépression, vous avez peut-être besoin pendant 10 jours, il le faut prendre le traitement pendant 10 jours et ne surtout pas s'automédiquer.
Professeur Amouyel, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, Philippe Amouyel, professeur Philippe Amouyel. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies du vieillissement et directeur général de la Fondation Alzheimer. Alors juste avant, on a évoqué quelques conseils pour mettre en œuvre au quotidien, qu'on peut mettre en œuvre au quotidien pour prendre soin de son cerveau, le rendre plus fort pour repousser Alzheimer. On va en donner encore quelques-uns, on va parler notamment de l'importance du sommeil. Bien dormir, alors on le sait que c'est très bien pour ne pas être fatigué, évidemment, on en a parlé souvent dans cette émission, mais le sommeil, pour le cerveau, c'est comme une opération de grand nettoyage cérébral. Expliquez-nous.
Oui, alors, quand on dort, mais dans la plupart du temps, on élimine les protéines toxiques qu'on a accumulées toute la journée. Et pour le cerveau, jusqu'à une dizaine d'années, on pensait que le cerveau n'éliminait pas, il accumulait. Et en fait, non, on s'est aperçu, un chercheur a trouvé que pendant la nuit, certains canaux s'ouvraient et éliminaient les protéines. Mais que pendant la nuit, pendant le sommeil. Donc le nettoyage du cerveau de ces protéines toxiques, y compris les protéines de l'Alzheimer, s'élimine pendant le sommeil. Donc on s'est rendu compte qu'avoir un bon sommeil était quelque chose d'important pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, en particulier un sommeil avec des phases qu'on appelle le sommeil profond, long et prolongé. Donc c'est ce qui est plutôt bon pour le cerveau. L'autre phénomène dont on s'est rendu compte par rapport au sommeil, c'est que quand les gens dorment, il y a des gens qui ronflent.
Ah oui.
Et le ronflement...
J'ai jamais dormi avec vous, mais j'en connais. Je sais que c'est votre problème principal.
Et on s'est rendu compte que certaines personnes ronflent, mais en plus, à un moment, elles s'arrêtent de respirer. Elles font des pauses respiratoires, ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Et on s'est demandé si les apnées du sommeil qui augmentaient, par exemple, la pression artérielle, le risque cardiaque, n'avaient pas un impact sur la maladie d'Alzheimer.
Et
donc,
si.
Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh oui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a équipé ces gens de petits appareils qui, justement, bloquent ces apnées pendant la nuit et leur permet de respirer. Et on s'aperçoit que ceux qui ne sont pas appareillés ont un risque plus élevé de faire un Alzheimer que ceux qui sont appareillés. Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un risque, mais en plus, on peut le combattre.
C'est très intéressant. Jimmy ?
Un autre chapitre très intéressant dans votre livre, c'est celui consacré à la méditation. Je vais être très honnête avec vous, Philippe. Pour moi, la méditation,
pourtant,
à la base...
C'est pas votre truc, non, Jimmy ?
Dans ma tête, c'est un truc de bobo. On va faire de la méditation, ça ne sert à rien. Eh bien non, finalement, ça a des vertus prouvées scientifiquement, notamment sur la maladie d'Alzheimer.
Oui, alors yoga et méditation.
Tout ce que vous aimez.
Méditation
hein,
en pleine conscience. Méditation en pleine conscience. Hein, pas le contexte comment dire, religieux qu'il y a autour de la méditation, mais vraiment une méditation que certains de nos collègues en cancérologie utilisent dans les suites de cancers, ont des effets sur le cerveau. Alors il y a une équipe en particulier à Caen, pilotée par Gaël Chetla, qui étudie avec des IRM les cerveaux de grands maîtres de la méditation. Ils se rendent compte que certaines zones du cerveau ne sont pas développées de la même manière que chez ceux qui ne méditent pas. Et apparemment, ils sembleraient être protégés contre certaines atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc ce qui est tout à fait intéressant. L'autre élément qui est intéressant dans le yoga ou la méditation, c'est qu'on va lutter contre le stress. Alors pas le grand stress, les grands soucis qui nous aident à avancer dans la vie, mais ce petit stress du quotidien,
qui nous ronge un peu.
À bas bruit, qui nous ronge, c'est celui-là qui est le plus toxique. Donc apprendre à encaisser les chocs. Donc apparemment, là encore, c'est un outil qui semble très utile pour la maladie d'Alzheimer. Alors cette étude devrait démontrer l'intérêt de la méditation, justement, sur le cerveau et sur le risque de maladie d'Alzheimer.
Dernier conseil, on va dire pratique, il y a des sports complètement à éviter si on ne veut pas avoir un risque plus élevé d'avoir la maladie d'Alzheimer.
Et oui, notre cerveau est très fragile. Alors il est protégé dans sa boîte crânienne, sauf qu'il flotte dans la boîte crânienne. Et quand, par exemple, vous freinez trop vite, que vous cogniez, ben, il joue au ping-pong dans la boîte crânienne et il s'abîme un petit peu.
On imagine bien que ce n'est pas très bon. Ouais.
Alors c'est pas bon du tout. On s'est rendu compte dans un sport qui est d'une grande violence, qui est le football américain. Les Américains ont sorti des études qui montrent que leurs joueurs, quand ils vieillissent, développent 3 à 4 fois plus de maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, que le reste de la population. Les boxeurs, bien sûr, hein, vous connaissez le devenir de Mohamed Ali. Et tous les sports qui jouent avec la tête, progressivement, on s'est rendu compte que, justement, il y avait des problèmes. Par exemple, les chutes à répétition. Et en Europe, avec le football européen, les Écossais ont montré récemment que les joueurs de foot qui frappaient avec la tête, il y a des grands spécialistes de la tête, avaient des lésions de type Alzheimer dans le cerveau. Certains sont décédés, on a pu examiner leur cerveau, à tel point que, en Écosse, les clubs de foot interdisent aux enfants de jouer avec la tête avant l'âge de 12 ans.
Moi, c'est super, Jimmy, avec votre gymnastique rythmique, vous risquez rien.
Tout va bien.
Professeur, pour venir aux malades, on a compris qu'avant d'avoir un traitement, ça risque de prendre du temps et que là, actuellement, ce qu'on peut faire, c'est améliorer la qualité de vie des malades. Et je crois qu'il faut se tourner du côté de l'innovation pour permettre justement un meilleur niveau de vie.
Alors, en effet, on a parlé à chaque fois d'éviter d'arriver vers la maladie d'Alzheimer. Mais il y a des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas les abandonner. Il faut trouver des moyens de les aider eux-mêmes, aider les aidants, aider les familles, de manière à ce que la vie soit plus équilibrée. Il y a un élément qui est très important dans cette notion de dépendance qui apparaît avec le temps, c'est de pouvoir rester à son domicile. Plus longtemps vous restez à votre domicile, et ça se comprend, meilleure sera votre qualité de vie.
Et l'espérance de vie, c'est montré, hein, ceux qui sont chez eux, les patients Alzheimer
vivent plus longtemps que ceux qui sont mis. Alors, il y a le fait qu'on y va généralement en fin de vie quand les troubles sont extrêmement graves, mais de fait, le fait de tenir le plus longtemps possible à la maison est un élément très positif. Et vous savez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, que ce soit les téléphones portables, que ce soit les détecteurs de fréquences cardiaques, les détecteurs de chute, commencent à se démocratiser et vont pouvoir envahir la maison. Et l'idée, c'est réellement...
Il faudrait des robots pour les aider aussi.
Par exemple,
ce genre de choses-là qu'il faut développer.
Nos amis japonais, eux, qui ont un taux de vieillissement extrêmement important et personne pour s'occuper des gens, sont en train de développer des robots. Alors, il y en a un petit, qui est un robot qui fait des câlins, des robots qui vous surveillent ou qui vous aident à vous surveiller, qui permettent de faciliter la vie à domicile.
Et c'est tout ça qu'il faut développer. Merci beaucoup, professeur Amouyel. Vous avez encore, on va rester encore un tout petit peu ensemble. Pour ceux qui souhaitent quand même encourager la recherche dont on vient de parler, y compris celle dans l'innovation, en cette journée mondiale ou n'importe quand d'ailleurs, hein, vous pouvez faire un don sur www.fondation-alzheimer.org. Sachez que l'intégralité des dons est reversée aux chercheurs.
Europe.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Nous changeons un tout petit peu la formule habituelle puisque nous avons décidé de vous donner la parole sur la maladie d'Alzheimer. Vous avez des questions précises, pratiques, et bien ça tombe bien. Le professeur Amouyel reste avec nous pour y répondre. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien, dans laquelle nous allons terminer ce focus sur la maladie d'Alzheimer avec vous, professeur Amouyel. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre cette maladie. Et donc, on donne la parole à nos auditeurs et on va écouter une première question à laquelle vous allez répondre juste derrière. C'est la question d'Anne-Laure.
Ma grand-mère, elle a été diagnostiquée d'Alzheimer, donc elle avait 72 ans quand on lui a diagnostiqué, donc ça a été un choc terrible pour la famille, du coup on s'y attendait pas, etc. Et du coup, la question que je me pose en fait, c'est on meurt de quoi quand on a Alzheimer, qu'est-ce qui va lui arriver à ma grand-mère, etc. Comment ça va se dérouler, on n'en sait pas trop quoi.
Effectivement, hein, professeur Moyen, une très bonne question. On ne meurt pas de perte de mémoire. Donc, on meurt de quoi quand on a Alzheimer ?
Quand on a une maladie d'Alzheimer, en fait, ce qui se crée, c'est qu'apparaît une grande dépendance. Dépendance par rapport aux choses, dépendance par rapport à la vie quotidienne. Et c'est cette dépendance qui va être à l'origine du décès. La cause de décès a des stades extrêmement avancées. Je dis bien extrêmement avancées. C'est souvent ce qu'on appelle les fausses routes. C'est-à-dire que les gens s'étouffent.
Ah oui.
On n'est pas là pour les réanimer. Et ils décèdent de cette manière. D'autre part, ils peuvent avoir des maladies très difficiles à diagnostiquer chez eux parce qu'ils n'arrivent plus à s'exprimer, à exprimer leurs douleurs, qui progressent à des stades très avancés, que ce soit des cancers ou des maladies cardiaques. Donc ce sont d'autres maladies qui vont entraîner le décès de ces patients, mais bien sûr pas la perte de mémoire elle-même. Et tout ça va évoluer de manière très variable dans le temps. Quelqu'un bien stimulé, bien entouré, peut avoir une évolution extrêmement lente et finalement passer encore du temps avec ses proches sereinement.
Alors là, on a reçu cette question sur les réseaux sociaux, la question de Ève qui dit « Ma mère a la maladie d'Alzheimer, elle a été diagnostiquée, on lui a annoncé, mais elle est totalement dans le déni, que faire ?»
Alors ça, c'est un des très gros soucis qu'on a, c'est-à-dire que les gens présentent des troubles, la famille s'en rend compte, mais ils les ignorent. Et ça, c'est un réflexe naturel qu'on a tous, hein, quand vous oubliez, vous dites, oh, c'est parce que je suis fatigué aujourd'hui, oh, c'est parce que je suis... Et tous ces éléments font que la peur également d'avoir cette notion et ce diagnostic font que les gens ont une phase de déni, c'est-à-dire qu'ils disent « mais non, j'ai absolument pas ça ». Très difficile à combattre, ça se combat très progressivement, il faut en discuter, il faut leur expliquer le fait de le savoir ne va pas avoir de conséquences en soi, ce n'est pas le fait de dire le mot qui cause la maladie, mais bien la maladie qui existe, donc c'est beaucoup de patience, beaucoup de douceur.
Et ça peut avoir des conséquences négatives, je veux dire, sur le pronostic de ces malades ?
La conséquence négative, c'est... on a du mal à s'occuper d'eux de manière qu'on a du mal à les aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Et d'autre part, en particulier dans les formes très précoces, si on se met à mettre en place des conseils de prévention, on peut ralentir un petit peu le déclin. Donc pour qu'ils puissent les mettre en place, il faut qu'ils en aient conscience. Donc il ne faut pas lâcher pour les aider à comprendre.
Alors on va prendre une autre question, c'est la question de Marine.
J'ai 40 ans, j'ai l'impression parfois de chercher mes mots, d'oublier des prénoms, des choses qui ne m'arrivaient pas avant. Ça pourrait être un début d'Alzheimer, à votre avis ?
Alors, 40 ans, Marine cherche ses mots, elle s'inquiète d'un début d'Alzheimer, c'est possible, docteur ?
On peut chercher ses mots pour beaucoup de raisons. Et 40 ans, c'est généralement l'âge où on commence à oublier quelques petites choses, les noms propres, ces éléments. Rassurez-vous, ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, y compris aux gens dans ce studio, ça arrive à chacun. Ce qu'il faut, c'est faire travailler sa mémoire, c'est surtout faire travailler son cerveau, ne pas paniquer et voir comment tout ça évolue. Le fait de chercher ses mots, le manque du mot, par exemple, la particularité, c'est qu'au bout d'un certain temps, on finissait toujours par le retrouver. Et surtout, ça vous énerve, ça vous agace, mais ça ne vous gêne pas dans votre vie sociale. Là-dessus, c'est plutôt rassurant.
Donc, à 40 ans, on ne s'affole pas. C'est quoi qui doit nous inquiéter ? Parce qu'il y a des Alzheimer précoces quand même.
Alors, il y a des Alzheimer précoces, mais la particularité, c'est qu'ils commencent très jeunes. Et surtout, ils sont héréditaires.
Mais 40 ans, c'est très jeune.
Oui, 40 c'est ans, c'est très jeune, mais ils sont héréditaires. C'est-à-dire qu'on sait dans la famille qu'il y a ces cas qui sont survenus déjà sur plusieurs générations. Donc, c'est un contexte très différent.
Merci beaucoup, professeur Amouyel, d'être venu sur notre plateau. Alors, j'en profite quand même pour citer votre livre, Le Guide anti-Alzheimer, aux éditions du Cherche Midi, une mine d'infos pratiques pour prendre soin de son cerveau. Merci encore.
Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'amour et de sexualité au travail. Alors, il y a des couples bien établis qui travaillent ensemble, ça c'est un fait. Et puis ça arrive aussi d'avoir un coup de cœur, de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent d'ailleurs ou pas ? Parce qu'on y passe du temps quand même au travail.
Et c'est pour cette raison d'ailleurs, parce que vous voyez bien que pour rencontrer des gens, il faut avoir le temps pour les rencontrer. Or, évidemment, ce n'est pas quand on galope dans la rue, ce n'est pas quand on est chargé de ses courses ou quand on file récupérer les enfants à l'école qu'on se rencontre. Donc, bien sûr que les lieux de travail sont des lieux où il y a du temps, où il y a de l'échange et où, évidemment, chemin faisant, on va peut-être évidemment glisser sur des choses un peu émotionnelles. Tout simplement parce que quand on est dans la vie sociale en général, au travail en particulier, nous avons besoin, nous ne faisons pas que notre métier, nous avons aussi besoin de plaire. Pas plaire à but sexuel, plaire parce que nous avons besoin d'exister dans le regard de l'autre. Donc, chemin faisant, à force de vouloir plaire, on plaît.
Et oui, Jimmy.
Alors, peut-être que Stéphane Bern pourra nous refaire l'histoire de cette expression, mais je croyais qu'on disait no job in job.
Je pensais
que ce n'était pas possible de
mettre l'expression. Voilà. Non, mais pourrie,
autant on peut avoir. Non, c'est pour vous dire. On peut peut-être créer une histoire, mais les relations purement sexuelles sont peut-être à éviter avec des collègues de travail.
Bah, elles sont à éviter parce que ça complique bien sûr les choses. Parce qu'il y a dans la relation, relations de travail, des relations de pouvoir. Dans la relation amoureuse, il y a des relations de pouvoir qui sont peut-être d'ailleurs pas les mêmes. Et que du coup, ça vient se mêler, s'emmêler et rendre un peu compliqué l'autorité quand il y a besoin d'une autorité de l'un sur l'autre, dans le cadre professionnel. Or, dans la vie amoureuse, a priori, ça n'est pas le cas. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas mélanger les choses. Hein. Sinon, on se retrouverait un peu comme au collège où on dit « Ah bah, t'es mon meilleur ami, je peux pas sortir avec toi parce que nous ne pouvons pas tout mélanger. » Or, on peut avoir beaucoup d'affection pour quelqu'un et que cela se transforme en amour. C'est vraiment la problématique de la hiérarchie et de la nécessité d'avoir une domination de l'un sur l'autre au sens noble du terme, bien sûr, dans le cadre professionnel, qui peut, dès lors qu'il y a des enjeux émotionnels, amoureux et sexuels, se compliquer considérablement.
Oui, et puis il y a l'amour et puis il y a les coups d'un soir, c'est pas la même chose comme relation à votre âge, on a le droit de tomber amoureux j'imagine, sur son lieu de travail.
Mais même les coups d'un soir, c'est compliqué, puisque ça veut dire que le lendemain, on se retrouve quand même avec son collègue.
Ça peut être délicat quand même. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas quand même se renseigner, notamment si la personne est déjà en couple ou pas, si on envisage quelque chose qui soit amoureux quand même, parce qu'on a le droit de tomber amoureux.
Je pense, Mélanie, que les gens sont très renseignés, hein, vous savez, ils le font éventuellement.
Dans des très très grandes entreprises où on remarquerait quelqu'un, éventuellement, c'est pas toujours facile de savoir son statut marital.
Bien sûr, mais je pense que d'une certaine manière, savoir le statut, c'est aussi une assurance de pouvoir se protéger, qu'on pourra se séparer. Sauf qu'on peut se tomber dans son propre piège, qui est tout d'un coup tomber amoureux, et ce qui complique les choses, c'est qu'on travaille ensemble. Chacun est peut-être engagé, ou l'un et l'autre, l'un ou l'autre est engagé, ce qui complique considérablement les choses et ne fait pas beaucoup de disponibilité pour le travail.
Jimmy. Ou sinon, on porte une alliance, hein, c'est très visible, et au moins on sait qu'on est tranquille.
Ouais, bon. Mais ça saurait si les alliances étaient le gage de absolue fidélité.
Jimmy, il y a beaucoup d'alliances. Il a des d'alliances. Conseils simples à vous donner.
C'est très basique, c'est très concret, c'est du pratique, mais quand même, Catherine, parce que bon, si on est avec quelqu'un dans la vie de tous les jours et qu'en plus on passe notre journée au travail avec, qu'on rentre ensuite le soir avec, ça peut être un peu compliquant. Est-ce qu'on n'a pas besoin de coupures pour mieux se retrouver le soir?
Alors c'est sûr que plus on est ensemble, alors c'est merveilleux bien sûr, nous idéalisons tout ça.
Il y a des couples très fusionnels qui adorent ça, hein, mais bon, moi je ne me verrais pas travailler toute la journée avec la personne aimée. Quoi.
Voilà, non, c'est-à-dire que en fait c'est vrai que dans la mesure où on est tout le temps avec l'autre, on finit par effectivement être dans une fusion merveilleuse, simplement la fusion en général n'aime pas trop faire avec l'environnement. Hein. Donc dans le cadre professionnel, c'est un peu parasité par tout cet environnement où c'est très excluant de l'environnement, ce qui est du coup délétère dans le cadre d'un travail dans une société par exemple. Mais prenons des gens qui vont travailler dans des artisans ou des restaurateurs ou des gens de profession libérale qui partageront donc leurs préoccupations professionnelles, leurs préoccupations amoureuses. C'est évidemment formidable de pouvoir partager autant de choses, l'intimité, les sentiments, la sexualité, les intérêts professionnels. Mais évidemment que petit à petit, il manque de la distance entre les deux. Or, cette distance est nécessaire parce que c'est ce qui fait qu'on va cheminer vers l'autre. Or, si l'autre est toujours là et puis aussi porte aussi toutes les difficultés, on voit déjà ce que ça fait quand il y a des enfants au milieu où on parle, reparle du problème de l'enfant du premier, du deuxième qui va pas passer dans la classe supérieure. Alors, vous pensez bien un problème de trésorerie, un problème de
Quand c'est déjà toute la journée, puis après aussi au dîner le soir, ça devient un peu lourd.
Un peu lourd. C'est vrai que du coup, que chacun aille gagner ses victoires ou au contraire, aille vivre ses défaites à l'extérieur et puis vienne pour se réconforter, ça crée une intimité qui est un peu moins encombrée de notre réel professionnel.
Jimmy.
Alors, pardon, je chassais une mouche qui m'embêtait.
chassez-la.
Catherine, comment est-ce qu'on fait du coup pour, alors je parle pas pour moi évidemment, mais pour aborder quelqu'un sur son lieu de travail, est-ce qu'on le fait devant tout le monde, dans les open space ou on attend, je ne sais pas, la machine à café, le repas pour peut-être essayer de, voilà, plus en tête-à-tête.
Voilà bien une curieuse question. Franchement, est-ce que je sais comment on aborde les gens? On les aborde chacun avec notre sensibilité personnelle. Cela va sans dire, donc choisissez le lieu qui est le plus opportun pour vous et pas celui où vous faites griller devant vos collègues, évidemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, on cède la place à Stéphane Bern et Mathieu Noël. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Vous savez, il y a une chose avec Stéphane, on s'est vraiment juré. Ouais. Quand on a démarré cette émission, ne jamais céder aux sirènes du racolage. Jamais.
Jamais.
Aujourd'hui, le thème de l'émission, voyant et l'histoire de boule. Stéphane, je vous laisse vous expliquer.
Boule de cristal.
Boule de cristal, bien sûr.
Le plus célèbre voyant de l'histoire, c'est Nostradamus.
Évidemment.
Et ses célèbres prescriptions. Non,
les prescriptions, c'est chez moi.
Mais oui, mélange les émissions.
Voyant,
c'est les prescriptions de Jimmy Mohamed. Prédiction de Nostradamus.
Voilà.
Mais Stéphane, oui.
Faut pas les mélanger.
Non, surtout pas. Pardon.
La célèbre voyante, également américaine, Jean Dixon. Elle avait prédit la mort de Kennedy, l'apocalypse, etc.
Ouais, y a des trucs qu'elle a eu bon et des trucs qu'elle a eu moins bon. Ouais,
comme Elisabeth Tessier. Ouais,
effectivement.
Et vous, alors, plus contemporain.
Ah, plus contemporain et plus fiable aussi. Oui. Paul Le Poulpe. 12 prédictions sur 14 validées. Je reviendrai sur l'histoire émouvante de Paul Le Poulpe, car Paul Le Poulpe n'est plus. Je vous, voilà. je vous préviens.
Il est mort.
C'est terrible. Oui. Je vous raconte.
Oui. Oh, non, je
oui,
savais
vous
pas.
N'en avez rien su. Il ne vous a pas envoyé de dire pas.
C'est vous dire sûr, on m'a pas mis au courant.
Sur Europe 1, on vous raconte l'histoire sans vraiment se prendre au sérieux.
Oui, je crois que c'est clair.
Je vois ça, effectivement. J'ai hâte d'en savoir plus sur Paul Le Poulpe. Vous aussi, surtout, si vous avez hâte d'en savoir plus, restez sur Europe 1.